Olivier Labert, c'est notre géopolitologue maison, en dehors d'Isaac Franco, bien évidemment, que vous aurez le plaisir de retrouver d'ailleurs entre 17 et 18 heures tout à l'heure. Pour l'heure, c'est Daniel Labert qui s'explique au micro de Blaise van der Linden.
Bonjour Daniel Labert.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors, Daniel, nous parlons de la situation à Rafah aujourd'hui. C'est le symbole de la guerre à Gaza. Quelle est votre opinion par rapport à cela?
Alors ça fait beaucoup de semaines que Gaza un petit peu concentre un peu tous les conflits et on est passé depuis quelques jours à une accélération des événements autour de Rafah, qui fait que ce symbole de la guerre d'Israël devient un symbole concret et effectif sur ces trois plans dont on parle à chaque fois, militaire, diplomatique et guerre de communication. Et qui fait qu'au total de ces trois fronts, Israël, qui est au fond celui qui doit mener une guerre juste, une guerre indispensable, une guerre nécessaire, se trouve dans une situation très difficile. Alors, et si on analysait sur le plan militaire, ce qui se passe, c'est qu'Israël est entré dans Rafah, et non seulement est entré dans Rafah, mais contrôle toute la frontière entre Gaza et l'Égypte, sur 14 kilomètres, cette fameuse route ou corridor de Philadelphie. Ce qui se passe donc en ce moment, c'est d'abord un succès militaire, au fond peu claironné, parce qu'il y a beaucoup de choses qui obscurcissent ça, mais en fait c'est un grand succès militaire. C'est un succès logistique. Parce que pour rendre cette opération militaire possible, il fallait d'abord, ce qu'on pensait impossible, déplacer 1 million de personnes. Or, ça a été fait dans les semaines qui ont précédé, dans les jours qui ont précédé, sans que ça ait donné lieu à beaucoup de publicité, parce que c'était mieux de le faire discrètement. Et donc, on a déplacé toutes ces personnes. Elles sont du côté de la mer, un peu plus au nord de la frontière. Et donc, c'est un succès logistique dont peu de pays sont capables. Et puis, c'est un succès stratégique parce qu'on découvre à l'occasion de ce contrôle de la frontière, j'en parle très souvent, que cette frontière n'était pas fermée, qu'elle n'était pas hermétique, au contraire, qu'elle était largement ouverte et que au fond tout y passait, non seulement les armes et le ciment et les équipements pour faire les tunnels, mais que on pouvait faire entrer de la nourriture, des médicaments, et donc que l'expression Gaza est une prison à ciel ouverte qui est reprise jusqu'à plus soif par tous les ennemis d'Israël. C'est une stupidité, au contraire. Hélas, c'est une prison où on peut entrer, on peut en sortir moyennant pas beaucoup d'argent. Tout le monde peut en sortir et tout peut entrer. Donc voilà un petit peu au fond, le succès militaire. Malheureusement, ce succès militaire a été terni par un accident qui s'est passé le vendredi 27 mai, où, à la suite d'un tir très précis, avec des bombes très légères, des bombes de 37 kilogrammes, alors que les bombes dont Biden disait qu'il priverait Israël de leur livraison faisaient 2000 kilos, 2 tonnes. Vous voyez la différence entre 2000 kilos et 37 kilos. Et c'est donc ces bombes très ciblées qui visaient deux hauts responsables du Hamas. Malheureusement, on déclenchait un incendie parce qu'à côté, il y avait des munitions ou de l'essence, on ne sait pas très bien. Et ça fait des morts. Or, cet accident, il était prévisible. Il avait été prévu par tous ceux qui mettaient en garde Israël d'attaquer Rafah, et ça devait pas arriver, quoi. Et malheureusement, c'est arrivé. Et parce que c'est arrivé, ça a déclenché deux autres phénomènes qu'Israël doit contre lesquels Israël doit lutter, qui la guerre diplomatique, la pression diplomatique et la pression de la communication. Alors sur la pression diplomatique, elle est à son maximum en ce moment, puisque vous avez d'un côté les Européens, les Chinois et évidemment Biden à son tour, qui ont fait les pressions suivantes. Pour les Européens, ils ont immédiatement saisi l'occasion de cet accident pour mettre à exécution ce dont ils menaçaient Israël, qui est la reconnaissance de l'État de Palestine, reconnaissance symbolique, mais qui est une punition officielle d'Israël. Quoi qu'ils disent, ils disent que c'est pour le bien d'Israël, etc., mais en réalité, c'est une punition, et les pays qui ont choisi de faire ça sont des pays qui sont traditionnellement hostiles à Israël, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, c'est pas d'hier. La Chine, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le 31 mai, là, il y a quelques jours, à Pékin s'est tenue une de ces réunions qui existent depuis 20 ans entre la Chine et la Ligue arabe. s'appelle un forum de coopération Chine État arabe et c'est déplacé. Alors c'est une réunion qui aurait dû avoir lieu l'année dernière, déjà fin de l'année dernière. On décide de la mettre maintenant, tout de suite, en plein conflit, et se rendent à cette réunion non seulement le secrétaire général de la Ligue arabe, mais Sisi lui-même, le maréchal Sisi, l'Égypte, celui qui rend la frontière poreuse. Les monarques de Bahreïn et des États arabes unis et de Tunisie et le président de Tunisie. Ils n'y vont pas pour rien. Et ils ressortent avec un communiqué conjoint entre la Chine et les pays arabes qui entérine toutes les demandes arabes et toutes les analyses arabes. C'est-à-dire que la Chine se range complètement du côté des Arabes pour dire en gros, nous condamnons Israël. C'est une agression, c'est une intention de nettoyage ethnique, enfin bref, tout un tas d'éléments que les Chinois ne sont même pas au courant, mais que leur ont imposé d'écrire les Arabes. Et ils ont signé, les Chinois, parce qu'ils ont en tête autre chose dont je vais parler. Et au fond, ils font une proposition de faire une grande conférence internationale pour résoudre la question palestinienne et autour de la solution à deux États. Et donc cette conférence, évidemment, et là il y a une grande ambiguïté, dit c'est l'OLP qui représentera les Palestiniens, mais on demande à l'OLP de faire son unité. Et son unité veut dire de parler avec le Hamas, parce que quelques jours avant, Pékin avait convoqué des représentants de l'OLP et des représentants du Hamas pour dire mettez-vous d'accord. Donc on voit qu'une éventuelle conférence internationale mettrait la Chine en avant. Ne laisserait pas les Américains seuls au Moyen-Orient et surtout permettrait certainement au Hamas de venir avec ses revendications. Et donc on peut se demander à quoi ressemblerait cette conférence. Tout ça veut dire en fait que la Chine se tient aux côtés des Arabes. D'ailleurs, elle s'est déjà tenue aux côtés de l'Iran, et donc elle est à côté de tous les ennemis d'Israël. Et pourquoi elle fait tout ça? Pas forcément par hostilité spécifique à Israël, mais parce que ça fait partie du grand combat que la Chine mène avec les États-Unis. Et on voit bien que c'est une grande avancée. Et puis, il y a Biden, la pression diplomatique par Biden, qui en gros avait dit n'allez pas à Rafah. Finalement, dit vous pouvez y aller. Et puis qui devant l'accident commence par dire c'est pas trop grave et finit par dire bon j'ai trop de pression. Il reçoit certainement des pressions immenses du côté du Parti démocrate, est obligé de dire quelque chose et il relance l'idée d'une négociation pour un cessez-le-feu contre les otages. Cette proposition, elle est très floue parce qu'elle ne dit pas si le cessez-le-feu sera temporaire ou permanent, combien d'otages, etc., etc. Mais c'est ce flou qui peut peut-être permettre d'engager à nouveau une négociation. Je suis pas sûr qu'elle ait lieu, mais bon, elle s'avance. Et je termine ce propos pour dire que ça a aussi relancé une vague de haine anti-israélienne et anti-juive dans la communication, avec toujours les mêmes concepteurs, qui sont les frères musulmans, la Russie, un certain nombre d'États hostiles à l'Occident, pas seulement à Israël, mais à l'Occident, mais qui sont surtout relayés en Occident par les wokistes, les partis d'extrême gauche, etc., autour de deux thèmes. Un, le génocide, et deux, tout ça, c'est la faute de Bibi. De Netanyahou. Donc, on voit bien que, et je conclue d'un mot sur cet aspect, c'est que les pressions diplomatiques tournent toujours autour de l'idée de deux États. Par contre, la vague de communication ne tourne autour que de l'idée que d'un État, de la rivière à la mer, et donc épouse les thèses du Hamas. Donc, on voit bien que ici, l'offensive contre Israël, elle est à son maximum.
Daniel, il nous reste 1 minute pour conclure. Ça va être très compliqué, je pense, de faire une synthèse globale. Vous avez dit la rivière à la mer. À Bruxelles, nous avons eu des manifestations qui soulevaient ce slogan From the River to the Sea. Est-il possible de faire une synthèse globale de la
Oui,
situation actuelle?
en 1 minute, on va dire qu'Israël est dans une situation comme elle n'a jamais connue, très très difficile, très très difficile. Il y a cet isolement qui s'accroît, il y a cette dimension intérieure, puisque on recommence à voir à la fois des concurrences politiques de Netanyahou, les médias qui se déchaînent contre le gouvernement, des manifestations d'Israéliens en Israël autour de la question des otages et de Bibi. Et puis surtout, tout ça, ça semble se rapprocher de la fin des opérations de Gaza, mais dans une très mauvaise position pour Israël, parce que, au fond, et ce sera ma conclusion, si on arrivait à un échange des otages contre la fin de la guerre, mais si le Hamas restait, même très affaibli, restait à Gaza, je pense que ce serait une défaite pour Israël, une grande victoire pour le Hamas, et surtout que ça va empêcher à la fois une solution de paix à long terme entre Israël et les Palestiniens, et ça empêchera surtout d'organiser une défense contre l'Iran, qui reste toujours, hein, je le dis souvent, l'ennemi principal à la fois d'Israël et des pays sunnites. Et on voit pas comment la situation actuelle, si elle se dénouait de cette mauvaise façon, et on y va, permettrait de monter ce front sunnite où l'Arabie saoudite et ses amis feraient front commun contre l'Iran avec Israël et avec les garanties américaines. On voit pas comment ça pourrait se réaliser. Et je pense que ce sera un de nos sujets de discussion dans les prochaines conversations que nous aurons ensemble.
Et ça a été les propos notamment du Premier ministre qui disait que si la guerre ne se terminait pas sans l'éradication du Hamas, le Hamas revenait à Gaza. Voilà. Merci Daniel Habert d'avoir été avec nous ce matin et on se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.